Voilà, merci de, une fois de plus d'être avec nous. Aujourd'hui, une petite conférence qui a pour titre « Pour en finir avec une certaine manière de prêcher le Christ roi » ou sous-titre, si vous voulez, « À la recherche du principe de la raison psychologique qui aboutit à tous ces ralliements que nous constatons. » Donc d'abord, prêcher le Christ roi, c'est tout simplement prêcher la divinité de Jésus-Christ avec ses conséquences sociales. Et c'est bien sûr en vivre autant qu'il dépend de nous. Le Christ est roi de l'univers, et même ligoté, même humilié par les Juifs, même frappé par les Romains, même mort de tout son corps sur la croix, il reste le roi et le vrai Dieu. Donc jusqu'à la fin des temps, nous devrons prêcher bien sûr le Christ roi, et même au temps de l'Antéchrist. Il faudra encore prêcher le Christ roi et en vivre. Donc même au temps de l'apostasie des nations, qui est notre temps. Et il faudra le faire sans illusion, par amour de Dieu uniquement et par imitation du Christ, qui est mort pour la vérité. Donc sans attendre une victoire ici-bas. Il fut un temps, on le sait dans l'histoire, où les hommes ont accepté l'évangile et donc de se soumettre au Christ. Ce temps s'appelle la chrétienté. Mais ce temps, il est passé. Et aujourd'hui, les hommes veulent vivre sans le Christ, de manière générale. Donc ce temps est passé, mais au XIIIe siècle, comme au XXIe siècle, notre devoir, lui, reste le même. C'est à la suite du Christ, notre roi, régénéré par sa grâce, nous sommes venus au monde, comme disait Jésus-Christ, pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute la voix de notre Seigneur. En 1789, les catholiques, en tout cas pour la France, étaient une majorité. Mais la Révolution, nous le savons, et puis les funestes ralliements ensuite à la République, un siècle plus tard, puis les deux guerres mondiales, qui ont été des guerres d'abord idéologiques et économiques, ça on ne le dit pas beaucoup mais c'est la vérité, puis l'épuration après ces guerres, bref tout cela a réduit les catholiques de France qui étaient une majorité à devenir une minorité, et aujourd'hui une minorité insignifiante, c'est les faits. Et dans ce contexte, quelques jeunes hommes se sont levés et ont fondé une école d'études doctrinales qui prétend marcher à contre-courant pour relever la vérité et promouvoir le Christ roi. Cela s'est passé le 29 juillet 1946. Ces trois hommes donc se réunissent et consacrent leurs travaux au Christ roi, en la basilique de Montmartre, à Paris. Et le même jour, ils vont ensuite à la chapelle de la médaille miraculeuse pour se consacrer et mettre leur œuvre sous la protection de Marie, reine du monde. Ces trois hommes, s'appelaient Jean Housset, ils s'appelaient Jean Masson et Denis de Marc. Et ainsi, a été créé ce qui a ensuite pris le nom de la Cité catholique. Donc ce mouvement qui était appuyé par une revue qui s'appelait la revue Verbe. Et elle venait ainsi de naître, grâce à ces trois jeunes hommes. Ils mettaient en place une vraie stratégie d'action contre-révolutionnaire. Et ils allaient produire en 1959 la véritable Bible de la pensée contre-révolutionnaire catholique pour la royauté sociale du Christ, notre Seigneur. C'est ce fameux livre que vous connaissez, « Pour qu'il règne ». Alors, les principes de leur action étaient assez simples. Avoir la foi, avoir le sens de l'Église, ne pas courir après les apparitions. Attention, ça revient. Certains en parlent beaucoup trop. Ne pas courir après les apparitions. Suivre les exercices spirituels de Saint-Ignace, autant que possible. Et une action individuelle par le travail intellectuel avec des amis par cellule de 10-12 personnes. Voilà la qualité, la structure qui va être très efficace de ces trois jeunes hommes de la cité catholique. Et ce travail a permis de transmettre le flambeau d'une vérité doctrinale catholique. C'est vraiment eux qui ont été l'intermédiaire de cela. Et le sursaut de la tradition que nous avons connu, que les anciens ont connu et dont nous avons profité, on est l'héritier direct et indirect. Même Mgr Lefebvre n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a réalisé sans ce travail de la cité catholique créé par ces trois jeunes hommes. car de nombreuses familles y ont trouvé un support et furent parfois converties ou confirmées par cette, par ce travail de la cité catholique. Donc il sera instructif de voir d'abord la force de ce mouvement, puis la chute de ce mouvement, de cette belle réaction catholique, afin d'en tirer des leçons. Les progrès de la cité catholique furent assez spectaculaires. Les congrès annuels, c'était la grande réunion du mouvement, vont donner une idée de ce progrès. En 1949, donc 3 ans après la fondation, le premier congrès a lieu à Saint-Étienne et ils sont 20 participants. Voilà, c'est ça. En 1950, ils sont 90 à Bordeaux. En 1953, c'est le 4e congrès, ils sont 150 à Dijon. En 1954, ils sont 300 à Angers. Et là, on commence à avoir des têtes un peu plus connues et impressionnantes. Il y a le père Calmel, le dominicain. Il y a Don Fresneau, qui est un bénédictin. Il y a Monseigneur Lusseau, qui est le doyen de la faculté de théologie d'Angers. Il y a Don Roux, abbé de Fongobo. Il y a Monseigneur Rupp, évêque auxiliaire de Paris. Monseigneur Bressol, Monseigneur Gégou, le père Dugast, le père d'Estombes. Bref, vous voyez... ça attire du monde et du beau monde, on pourrait dire. 1955, 6e congrès, ils sont 450 participants à Reims et ils ont l'appui officiel de Monseigneur Marmottin, archevêque de Reims. On croit rêver, mais il y a 50 ans, oui, un archevêque en France était pour le Christ roi. Ça nous paraît incroyable, mais et en fait, c'était normal. La même année, la cité catholique va éditer un ouvrage de l'abbé Julio Mainvielle, de l'amener à Maritain. Et ceci va être une vraie bombe dans l'univers moderniste, à partir de laquelle, bien, l'œuvre va être dans le viseur de tout ce que l'Église de France comportait de progressistes, de libéraux et de démocrates chrétiens. Car ce livre très bon, qui est toujours à lire ou à relire, décortique et explose toute cette pourriture intellectuelle de l'amener à Maritain. À partir de cette année, donc, vont se succéder toutes sortes d'attaques et de campagnes de presse. Et c'est la première leçon, déjà, à retenir. Dès que les progrès des catholiques commencent réellement à gêner, c'est-à-dire publiquement, socialement, dès que la vérité commence à faire reculer le mensonge, eh bien, la machine à broyer du système va se défendre et le système révolutionnaire se met en marche. Par la calomnie, par les pressions, etc. 1956, c'est le 7e congrès, ils sont 700 à se réunir à Orléans, et il y a 2 évêques présents, l'évêque d'Orléans, Monseigneur Picard de la Vacquerie, et Monseigneur Rupp, que nous avons vu. Il y a aussi la présidence assurée par un général, qui va fonder le MP13 un peu plus tard. Il y a des encouragements du Vatican, du cardinal Ottaviani, dont Monseigneur Marmottin, toujours, et puis on commence à entendre les noms de Monseigneur Marcel Lefebvre et de Monseigneur de Castromaillère. Donc on est en 56. Et puis il y a 2 articles élogieux de l'Osservatore Romano, qui est l'organe officiel du Vatican. Donc le Vatican encourage la cité catholique. 1957, c'est le 8e congrès, il y a 900 participants, c'est à Poitiers. 1958, c'est l'époque de l'Algérie, de la contre-révolution en Algérie, avec la guerre d'Algérie, en mai. Et là, la cité catholique va, vu le contexte, va annuler le congrès qui était prévu à Bourges. Mais ça va être aussi surtout l'année, et ça va être une première faiblesse de chez Jean Housset, c'est l'année du référendum gaulliste de 1958, qui va consacrer l'apostasie nationale en demandant de ratifier une constitution qui s'affirme laïque sur les principes de 1789. Bien sûr, c'était une mauvaise constitution. Jean Housset va malheureusement suivre l'impulsion des évêques, de l'ensemble des évêques de France, qui vont prendre massivement position pour le oui. C'est une sorte d'apostasie pratique. Et Jean Housset va se justifier ainsi auprès de ses membres. Notre action est doctrinale et ne se veut que doctrinale. La cité catholique a refusé et refuse de donner la moindre directive en ce qui concerne le référendum. Sa protestation faite contre l'agnosticisme de l'État, une fois cela fait, elle laisse à chacun le soin de régler son vote selon sa conscience. Et en agissant ainsi, nous avons conscience d'avoir scrupuleusement agi comme la hiérarchie. Et on voit déjà l'argument très, très, très faible de « j'ai fait comme la hiérarchie ». Et puis aussi cette dichotomie, cette séparation entre les principes et l'action. Si les principes sont rappelés, il faut en tirer des conclusions. Le Christ-Roi donc oblige à des choix et donc à des prises de position. Et on va voir, Jean Housset, plusieurs fois, va bien réaffirmer les principes, mais aura du mal à prendre position. Parce que ça change la vie, concrètement. Donc il ne suffit pas de rappeler une doctrine, il faut encore l'appliquer. Alors certes, plus les circonstances avancent, plus elles sont difficiles, et donc plus l'application pratique doit être prudente et peut être sujet à de discussions ou même d'erreurs ou de cautions. Donc il y a une difficulté réelle. Mais prétendre être neutre et ne pas prendre le parti de ce qui contrarie la révolution, eh bien c'est faire le jeu de la révolution. Et malheureusement, on a un contre-révolutionnaire parfait qui a fait concrètement le jeu là de la révolution. De Gaulle, bien sûr, n'était qu'un pion de la révolution et dès qu'il va gêner la révolution, eh bien De Gaulle va être éjecté et il va être chassé du pouvoir et remplacé par maintenant ce qu'on peut appeler des fonctionnaires de la révolution. Les présidents aujourd'hui n'ont plus aucune indépendance ni autonomie comme l'avait encore le dernier homme qui en avait un petit peu, c'était De Gaulle. Et justement, la révolution a fait en sorte qu'ils n'en ont plus. Remarquons donc, je vous l'ai dit, la scrupuleuse obéissance à la hiérarchie, qui ne tient pas compte des circonstances. La hiérarchie, à l'époque, a dit oui à De Gaulle et à sa constitution révolutionnaire. Et donc elle a dit non au Christ-Roi. Alors, que mérite une telle hiérarchie ? Obéissance ? Je ne pense pas. Le congrès de 1960 est encore un succès. Il y a de nombreuses personnalités qui s'affichaient encore au premier rang, telles que l'amiral Offan, le prince Xavier de Bourbon-Parme, le maréchal Juin, et puis on retrouve encore des ecclésiastiques, même si certains ont commencé un petit peu à prendre leur distance à cause de ne pas être amalgamés à cette campagne médiatique mise en place il y a 2-3 ans. 1961, c'est la fameuse encyclique « Mater et Magistra » de Jean XXIII, qui est un appel à l'époque sobre, mais un appel au mondialisme que nous vivons. Et donc, qui préparait les consciences catholiques à la mondialisation maçonnique du monde. Et Jean Housset, comme Jean Madiran, eh bien, vont s'efforcer, au début, de sauver l'ambiguïté des termes de cette encyclique et de minimiser le changement de cap de la hiérarchie. Alors, il était perceptible, mais on ne voyait pas encore les conséquences au début. Mais il était perceptible. Ils l'ont vu, et donc ils ont préféré sauver les termes et sauver le sens. Jean Housset voulait rendre catholique le discours de Jean XXIII qui n'était plus catholique. Ça aussi, c'est un défaut classique. Bref, on finissait par s'embrouiller. On tâchait de redresser ce gauchissement en invoquant des manipulations dues à des infiltrés. Alors que c'est pas ça, c'est sa tête qui était pourrie, c'est tout. Et Jean Housset va donc répéter la doctrine de l'Église, mais en refusant de voir que le renversement doctrinal a été provoqué par Rome. Donc c'était une position délicate et surtout dangereuse. Jean Housset était vraiment fidèle quant à lui à la doctrine catholique, mais il refusait de voir la réalité. Parce qu'elle était pénible. Et la réalité, c'est que la hiérarchie est infidèle. Dans ces années charnières, la cité catholique doit affronter, de manière plus forte, violente, des campagnes de presse, des calomnies, de la désinformation. On va les associer pendant la guerre d'Algérie française au putsch des généraux et à l'OAS. Moi, j'ai rien contre le putsch des généraux ni contre l'OAS. Enfin, si, on peut donner quand même, il y a quand même des choses qui n'auraient pas dû être faites. Mais en tout cas, c'était faire un amalgame. La cité catholique n'était pas partie prenante dans l'action de ces choses-là. Il y avait des cellules de la cité catholique qui se réunissaient non pas uniquement sur des critères géographiques, mais par corps de métier. Donc il y avait des cellules d'agriculteurs, des cellules d'étudiants, et il y avait aussi des cellules de militaires. Et ces cellules militaires, c'est vrai, ont joué, ces militaires-là ont joué un rôle ensuite dans la réaction contre l'abandon de l'Algérie française. Parce que les idées de Jean Housset ont eu un réel succès auprès de l'armée française, surtout dans ses réflexions contre la guerre révolutionnaire et la guerre psychologique, qui était un petit peu nouveau à l'époque. Donc la première conséquence de cette campagne de presse très virulente, eh bien, ça va être l'abandon des congrès. Pour l'instant, c'est trop dangereux, en tout cas, c'est plus opportun. Ça va être comme un tir de barrage qui a eu pour but d'étouffer tous ceux qui avaient encore le courage de rappeler et de répandre des vérités doctrinales. On les a pas fait taire directement, on les a fait taire pour un faux problème et par un tir de barrage. Vous savez, c'est 3 jours de d'artillerie et puis après, pour qu'il n'y ait plus rien. Et ça va marcher. Des gens vont reculer, des prêtres vont reculer. Donc le pouvoir occulte va déclencher son vieil arsenal devenu aujourd'hui classique et depuis indémodable, ce sont des intégristes. Ils manquent à la charité. Ils sont mus par l'orgueil. Ils usurpent des compétences qu'ils n'ont pas dans l'action catholique. Ils n'ont pas de mandat. Ils agissent sans mandat de la hiérarchie, etc., etc., etc. En mars 1961, un chanoine va lancer une attaque qui la plus virulente, qui va être relayée ensuite par toute la presse progressiste, moderniste et crypto-communiste. Donc témoignages chrétiens, information catholique internationale, Le Monde, La Croix, L'Humanité, tout le monde va s'y mettre. Et dans l'itinéraire, Jean Madiran va faire une très belle analyse de ce phénomène. Donc, même si Jean Madiran a par la suite eu des positions qu'on peut critiquer, il ne faut pas mettre à la poubelle tout ce qu'il a dit, il y a de très belles et très bonnes choses. Voici l'analyse qu'en fait Jean Madiran dans Itinéraire. Le procès que des journaux d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs font à la cité catholique prend prétexte des imperfections réelles ou supposées qui sont celles du mouvement de Jean Housset. Et ce procès est devenu en fait d'un bout à l'autre du monde chrétien un procès contre la civilisation chrétienne. Un procès rétrospectif. Un procès rétrospectif, un débat historique, ce ne serait presque rien encore. Mais un procès qui descend jusqu'à la racine du cœur, jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit, en visant à extirper jusqu'au désir, jusqu'à l'espérance, jusqu'à la volonté d'une civilisation chrétienne et d'une cité catholique. C'est ça bien vu. Nos ennemis ne se contenteront pas simplement de nous faire taire. Ils veulent même nous empêcher de penser. Catholique. C'est la haine ira jusque-là. Donc, troisième leçon, il faut prendre conscience que nous vivons une lutte à mort. Nos ennemis ne veulent pas simplement nous interdire de penser catholique en public. Ils ne lâcheront que lorsque nous aurons disparu ou lorsque nous serons reniés. C'est là qu'ils sont tranquilles. Donc, il n'y a aucun armistice à attendre d'eux. Et s'ils se taisent, ou s'ils nous laissent tranquilles, c'est soit que vous êtes insignifiant à leurs yeux, une question de stratégie, ou soit c'est une autre question de stratégie, pas le temps, c'est pas leur priorité pour l'instant. En 1962, c'est le fléchissement vraiment là apparent d'une œuvre qui aidait beaucoup la cité catholique, de l'œuvre des retraites de Chabeuil, qu'on appelait les coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi. Donc des prêtres qui étaient voués à la prédication des exercices Saint-Ignace, entre autres. Et donc ils avaient été, peut-être pas les inspirateurs de la cité catholique, mais en tout cas, il a été au fondement de cela, avec ces exercices du Père Vallée. Et un jour, des retraitants constate que des changements et particulièrement visible chez eux, surtout dans le choix des lectures pendant les repas. C'est des habitués, et ils ont constaté qu'on a enlevé des lectures pour les remplacer. Eh bien, les lectures les plus antilibérales, comme « La royauté du Christ » selon le cardinal Pi, de Théotime de Saint-Just, ou « Le libéralisme est un péché » de Don Sarda y Salvani, eh bien, ces deux livres clés avaient disparu des lectures à table, et remplacés par des textes de spiritualité, qui étaient bons, évidemment, sans doute, mais en tout cas qui était incapable de nourrir le combat intellectuel immédiat contre la révolution qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas au XIIIe siècle. En février 1962, toujours, le supérieur de cette congrégation, le père Navarro, expliquait à des laïcs éberlués que, je cite, l'œuvre avait fait fausse route, que le révérend père Millet, donc un des prêtres, avait fait beaucoup d'erreurs, donc ça devait être un costaud, lui, et que le père Terradas avait fait beaucoup de mal. Donc pareil, parce que quand vous dites la vérité, vous faites du mal. C'est ça que vous disent les libéraux. Hein, il fait beaucoup de mal. Tais-toi. Avant même l'ouverture du concile, ce supérieur général de ces coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi, eh bien, leur disait en substance, en 1962, l'Église change, l'Église va changer, et elle va s'adapter aux besoins du monde. Et donc, quatrième leçon à tirer de cela, c'est ce processus de trahison cléricale et classique. D'antilibéral, on devient insensiblement non-libéral. Puis on s'applique ensuite à faire taire les antilibéraux. C'est-à-dire, faire taire ces catholiques qui combattent pratiquement et efficacement la révolution. C'est ça, un antilibéral. C'est pas autre chose. C'est simplement le catholique conséquent. Et on finit ensuite par devenir libéral, c'est-à-dire complice, et ensuite, parfois, révolutionnaire, actif. Donc, il y a des phases. Donc, d'abord, on était antilibéral. Puis ensuite, on cesse de l'être, mais on n'est pas encore libéral. Mais on est simplement non-libéral. C'est cette phase-là qui est la plus dangereuse. Je ne suis pas libéral, mais je ne suis pas antilibéral. Je suis neutre. J'arrête d'être antilibéral. Je ne suis pas libéral. Je suis non-antilibéral. Je suis non-libéral. Et après, c'est une question de savon sur la plante. Après Chabeuil, remarquez-le, ça va être en, donc Chabeuil 62. Ce sera d'autres congrégations. 1978, le monastère de Saint-Joseph du Père Augustin. En 88, c'est le Barouf avec Don Gérard. En 2002, c'est Campos avec Monseigneur Ifan. En 2006, c'est l'IBP avec l'abbé Laguéry. Puis aujourd'hui, c'est la fraternité avec Monseigneur Felet. En 1963, Jean Housset et ses permanents déplorent le temps passé aux polémiques, qui semblent, selon lui, nuire au travail doctrinal de fond. Et dit-il, obéissant à de sages et fort bons conseillers, de fort sages conseillers, il réorganise l'œuvre en jugeant qu'il n'y a pas intérêt à se servir du nom de cité catholique pour étiqueter l'ensemble de l'appareil. Donc on change de nom. C'est pas gratuit ça. Donc la nouvelle structure va s'appeler, écoutez bien, l'Office international des œuvres de formation doctrinale selon le droit naturel des chrétiens. Voilà ce qui remplace la cité catholique. Alors, on devine le but, hein, c'est de noyer le poisson. Donc ça peut se concevoir en soi. De fait, les médias pour critiquer l'Office international des œuvres de formation doctrinale et du droit naturel des chrétiens, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ça leur entache sur le papier plus difficile, mais pas réellement. Donc ça ne servait à rien de changer de nom. Et la revue Verbe disparaît et va laisser place à la revue Permanence, qui existe toujours. Ces sages conseillers, on le saura plus tard, à l'époque on ne le savait pas, c'était Jean Madiran, malheureusement, et pire, Jean 23, qui avait reçu Jean Housset en audience privée le 16 février 59. Donc, c'est bien sûr suite à cela que le nom va disparaître. À partir de là, Permanence, l'Office, vont combattre comme à rebours. Ils cherchaient toujours à défendre la vérité. Ils avaient changé de nom, mais la doctrine était bonne dans ce qu'ils enseignaient. Ils voulaient être fidèles à l'enseignement traditionnel et au magistère. Mais ils ne voulaient pas accepter que cet enseignement avait, lui, changé et que ce changement venait d'une Rome empoisonnée et donc, conséquence, que l'ennemi est dans la place. Comme le dira bien plus tard un évêque de Limoges, Casamaïd del Clerc, le Concile Vatican II, dit-il, fut un événement phare qui a montré une Église faisant sa révolution 3 ans avant mai 1968. Au moins, ça a le mérite d'être clair et c'est bien cela. Cet évêque, celui qui ose dire ça, n'est pas catholique. C'est un traître, c'est un ennemi du Christ-Roi, c'est évident. Et de même, Jean 23 n'était plus catholique, mais une sorte d'usurpateur qui trahissait, qui découronnait le Christ en souillant le siège qu'il occupait. En 1964, Jean Housset va livrer au lecteur de Permanence un article fort intéressant intitulé « Pagaille dans l'Église » ou « Mystère de la Croix ». Il y avait de très belles choses et puis quelques faiblesses propres à Jean Housset. Mais globalement, l'article reste d'intérêt. Jean Housset commence bien à parler du problème. Ce problème qu'il a cherché à se voiler, il commence maintenant à en parler, parce qu'il grandit, on est en 64. Mais sans plus, il ne peut pas, donc soit dans l'intelligence, ou soit il n'ose pas, donc dans la volonté, en faire plus. Mais il rappelle que, ni la doctrine, ni l'histoire, dit-il, ne permettent d'affirmer qu'ici-bas, l'Église doit nécessairement se composer de fidèles édifiants, de prêtres de bonne doctrine, surnaturels, d'évêques sans respect humain, courageux devant César et soumis de cœur au Saint-Siège, voire de papes impeccables, bien qu'infaillibles. On va reparler de ça. Donc c'est vrai que c'est pas nécessaire à l'Église que tous les fidèles soient, comme il l'a dit, que tous les prêtres soient des curés d'Ars, etc. Non, ça, c'est, si on attend ça, en effet, on va attendre longtemps. Aujourd'hui et de loin, tout cela paraît clair, net, parfait. Donc il parlait des problèmes que l'Église avait connus, des disputes doctrinales. Aujourd'hui, tout cela est parfaitement distinct. Fidèle d'un côté, hérétique ou schismatique de l'autre. Et ça, cette remarque est très importante, elle est bien vraie. Mais pour ceux qui vécurent ces problèmes-là, c'était aussi une pagaille noire. On ne savait pas pour qui opter. Le curé était d'un bord, le vicaire d'un autre, les évêques en collégiale discorde, c'était la pagaille. Les Athanases et les Hilaires en minuscule minorité. Et comme toujours, c'était les autres qui modestement se prétendaient être dans le sens de l'histoire, présents au monde, témoins de leur siècle. Et Dieu a permis cela. Dieu permet cela. Comme il a permis la vie douloureuse et la cruelle passion de son Fils. Toujours pour la même raison, sa plus grande gloire, la plus grande gloire des élus. Et uniquement des élus. Donc il y a bien une certaine lucidité chez Jean Housset. Il parle de papes qui ne sont pas impeccables. Donc il commence à voir que ça pose problème de ce côté-là. Mais bien sûr, il a son réflexe classique, mais attention, ils sont infaillibles. Et il ne devra pas juger et aller plus loin que cet énoncé général qui est vrai. Or, si le pape n'est pas impeccable, c'est qu'il est peccable. C'est donc qu'il peut tomber dans le péché de manière générale. Et donc dans un péché particulier, qui s'appelle le péché d'hérésie en particulier. Avec les conséquences dont la principale est justement de quitter l'Église. C'est un péché qui fait quitter l'Église. On y reviendra à la fin. 1965, c'est la fin du Concile et ça va être le raz-de-marée des réformes révolutionnaires. Jean Housset demeure comme bloqué dans une position qui deviendra progressivement intenable parce qu'elle refusait jusqu'à la possibilité de la trahison au sommet, la possibilité d'un schisme à la tête. Et là, il bloque. Les hérésies de Vatican II et ses suites, qui sont essentiellement contraires à l'enseignement de toujours, viennent de Rome par voie d'autorité. Et c'est donc qu'à Rome, il y a au moins un abus d'autorité ou tout simplement une perte d'autorité. En 1965, c'est aussi le premier congrès donc de l'Office à Lausanne. L'Office qui tient encore le cap, mais la critique qu'il amorce sur le Concile n'est pas frontale. Donc il rappelle les choses, et par là, il contredit le Concile, mais pas directement. Dans ces années, la pointe du combat va maintenant passer de la cité catholique de l'Office. La pointe du combat maintenant passer à Itinéraire. C'est Madiran qui prend lui maintenant, qui va vraiment aller dans la critique frontale. Donc vraiment le combat contre-révolutionnaire. Efficace. Jean Housset n'ose plus le faire. Donc vous voyez comment un combat passe d'un à un autre. Dans la revue Itinéraire, à cette époque, il y avait donc le père Calmel, que nous avons vu, qui participait au premier congrès. Il y a le père Gérard Deslauriers, il y a les frères Charlier. Il y a Luce Quenette et puis bien d'autres, mais c'était les plus connus, les plus fréquents. Alors on peut bien sûr blâmer le fléchissement de Jean Housset, mais je pense qu'on ne peut pas lui jeter la pierre. Cet ultramontain, ce catholique, a bloqué sur une évidence qu'il croyait impossible, l'apostasie à Rome. Rome n'était plus dans Rome, le concile ayant été 1789 dans l'Église. Et donc cette révolution de la doctrine, de la messe, des catéchismes, des sacrements, est un vrai, au sens vraiment propre, un mystère d'iniquité. Jean Housset s'est forcé en 1967, comme bien d'autres encore aujourd'hui, d'interpréter le concile à la lumière de la tradition. Il va essayer. Il poussait encore les catholiques à lutter pour la royauté sociale du Christ. Il disait qu'un État ne peut pas ne pas avoir de doctrine d'État, c'est évident. Quand l'État dit qu'il est neutre, c'est faux. C'est déjà une doctrine, ça. Ça s'appelle une doctrine maçonnique. Donc l'État neutre, c'est un État maçonnique. Et donc les catholiques, disait-il, ne doivent pas abandonner la leur. C'est que les catholiques donc abandonnent la leur, celle de la révolution n'en sera que plus vite en place. Donc, il les invitait donc toujours à combattre cela. Mais c'est ça qu'ils ne voyaient pas. Que peuvent les défenseurs de la cité, qui sont au mur pour combattre, lorsque la trahison est installée au cœur de la ville, dans la cathédrale même, où on pactise l'ouverture des portes. Congrès de Lausanne de 1967, l'exposé final était réservé à Jean Housset et il invitait toujours les chrétiens à combattre pour la cité catholique. Et là, il se réfère surtout à Pie XII. Il ne se réfère pas aux autres, bien sûr. Voici ce que disait Pie XII et c'est très, très intéressant. Si l'on enlève au droit sa base constituée par la loi divine naturelle et positive, et par cela même immuable, il ne reste plus qu'à le fonder sur la loi de l'État comme sa norme suprême, l'étatisme. Un phénomène qui date de Philippe le Bel, mais qui a battu la Révolution, et aujourd'hui on est à la conséquence ultime de ce phénomène. Pie XII disait « Erreur qui est à la base de l'absolutisme d'État et qui équivaut à une déification de l'État lui-même. » Donc une idolâtrie, la doctrine aujourd'hui de l'État est idolâtrique. C'est ce droit légal, au sens où il vient d'être exposé, a bouleversé l'ordre établi par le Créateur. Il a appelé le désordre ordre, la tyrannie autorité, l'esclavage liberté et le crime vertu patriotique. Et ça c'est très intéressant, cette inverse. Les mots sont tous biaisés. On parle d'ordre alors qu'on devrait parler de désordre. On parle de liberté, mais alors qu'on est dans la tyrannie et de l'esclavage. Et regardez, le crime devient une vertu patriotique. Si vous n'êtes pas Charlie, vous êtes considéré comme un ennemi de la patrie. Alors, Charlie, mais c'est des ordures. C'est des ordures qui n'arrêtaient pas de blasphémer et de calomnier. Ça n'a aucun sens. Mais si, le crime, et ce crime que ces pamphlétaires pratiquaient, subventionnaient, eh bien, a été érigé au niveau de la vertu patriotique. Donc on est en plein dans ce phénomène. En 1968, Jean Housset écrivait « La réponse au désordre du temps est qu'il faut tenir ». Même, et vous voyez bien, on sent que son discours change un petit peu quand même. On voit, il y a une amertume, écoutez bien, il faut tenir. Même si le curé déraisonne, même si l'évêque déraille, même si tout le monde vire de bord, clergé en tête, comme il en vint en tant de pays, autant de Luther, de Calvin et d'Henri VIII. Donc il fait une comparaison qui est évidente, on est en 1968. Et il y en avait des curés qui déraisonnaient, et des évêques qui déraillaient, ça y allait. Ils ont fait n'importe quoi. Donc, mais remarquez bien, tout ce qu'il dit là est très vrai. Mais il y a une faiblesse dans l'argument. La crise était avant tout à Rome. Avant d'être chez le curé ou chez l'évêque, le déraillement était à Rome. Et ça, il n'en parle pas. La dérive vient de Rome même. Et elle n'est pas localisée à quelque près là, comme à l'époque de Calvin ou d'Henri VIII. Elle ne vient pas des interprétations du Concile, mais du Concile lui-même. Donc, en 1968, on pouvait encore peut-être s'y tromper. Parce que Paul VI tenait, malgré les œuvres catastrophiques de destruction qu'il a posées, il y a aussi des discours à résonance traditionnelle, comme Humanae Vitae ou sa profession de foi, qui pouvaient faire illusion, qui ont fait illusion chez certains. Mais l'année 1969, c'est l'année du Novus Ordo Missae, de la nouvelle messe. Et là, il y a évidence. Et là, l'office va refuser toute prise de position et toute intervention qui concerne cette révolution liturgique qui est promue par Paul VI, qui est même qui est promulguée, qui est obligée par Paul VI. En résumé, l'argumentaire de Jean Housset est le suivant. La liturgie est un problème qui relève de la compétence des clercs. C'est vrai en l'absolu. Nous ne devons pas nous en mêler. Ah oui, mais quand il gaspille la liturgie catholique pour faire du folklore, bah là, ça me concerne. Ce serait sortir de nos compétences, disait-il, propres aux laïcs, qui concernent la défense de la cité. Donc, on n'intervient pas. Pourtant, lentement, des réactions commencent à se faire. Elles venaient d'abord de prêtres. C'est le père Calmel, le premier, qui a réagi en France. De laïcs, puis la revue aussi Itinéraire de Madiran, qui va faire du gros travail en diffusant le bref examen critique que vous connaissez tous, qui avait été rédigé par le père Gérard Deslauriers et qui avait été co-signé par les cardinaux Ottaviani et Bacci. Et puis ensuite, ça va être des prêtres comme l'abbé Coache, le père Augustin, monseigneur Ducos Bourget, puis ensuite des laïcs qui vont tous prendre position en disant « Cette messe, jamais j'y assisterai. Jamais. » C'est Lusconnet, c'est... Et puis des dizaines d'associations Saint-Pie V vont se créer. C'est sur ce terrain-là que la fidélité a pu prospérer. Bref, qu'est-ce qui se passe? On a des catholiques éparpillés, isolés, sans support, sans cohésion. C'est ça, cette histoire-là. Et on a des prêtres qui sont en but à toutes sortes de persécutions. Voilà ce qui s'est passé en 69 à cause de cette nouvelle messe. À partir de 1969, Jean Housset va apparaître de moins en moins en permanence. Et il sent très bien qu'il préfère se taire et se retirer. Il a choisi de ne pas être neutre, mais il a des yeux, il voit. Et puis, ça aussi des facteurs à prendre en compte. On a une vie privée, on a une sensibilité. Donc à la situation de l'Église, qui déjà le déprime, le décontenance, eh bien va s'ajouter un drame personnel. En 1972, ou dans ces eaux-là, 70, je ne sais plus, je n'ai pas la date exacte, eh bien il va avoir la douleur de voir son fils se tuer devant ses yeux en tombant d'une échelle. Donc vous voyez, ça ne peut pas aider à... Voilà. Ça fait des mauvaises nouvelles. Donc Jean Housset va aller jusqu'à déclarer en 72, lors d'une session avec des cadres, devant des témoins dignes de foi, « Je ne crois plus à l'efficacité de la vérité. » On va voir, il faudra nuancer ce propos, mais on voit bien l'état d'esprit du bonhomme. Quoi. Ça fait 40 ans qu'il lutte et puis il se fait trahir par les clercs. Quoi. Puis ce qu'il voit, c'est horrible. Mais retenez cette phrase, parce qu'elle dénote une erreur. Une erreur, mais qui est hyper fréquente. Peut-être même que vous avez partagé, ou que nous partageons à certains moments. Vous allez voir. Il avait donc en partie chuté devant le ministère d'iniquité. Ah oui. En 1974, Jean Housset se retire officiellement de la direction de l'office. Et vers la fin de sa vie, il va conclure ceci. J'ai fait des curés, donc son œuvre. C'est vrai, il a fait. Des jeunes ont été bien formés, ont eu la vocation grâce à la connaissance de cette doctrine, etc. Et par leur combat, donc il a l'origine de beaucoup de vocations ou de prêtres qui se sont ressaisis dans la doctrine grâce aux travaux. J'ai fait des curés, j'ai fait de bons chrétiens, j'ai fait des doctrinaires, des gens qui connaissent bien la doctrine de l'Église. Mais ce que je voulais, la véritable classe politique efficace, les mille hommes qui, répandus dans le corps social, sont capables de l'animer en profondeur et de conduire le pays pour recréer une véritable civilisation, eh bien cela, je ne les ai pas sortis. Donc il considère qu'il a échoué. Il voulait 1000 hommes parfaitement formés et complètement investis dans le corps social qui, par diffusion, eh bien allaient répandre et donc tout inverser. Voilà quel était son beau rêve, sa belle mission. Donc cet homme, cultivé, généreux, qui voulait relever la cité, voit en plus l'Église se vider et les chrétiens apostasier. Donc il a échoué et en plus c'est l'Église qui se vide. Bref, cette situation douloureuse le fait évidemment énormément souffrir. Et on va le voir un jour, plusieurs jours même, à Aix-en-Provence, vivre comme un clochard, tendre la main et en faisant des dessins à la craie sur les trottoirs. Il avait été étudiant en art, donc il possédait bien, il avait beaucoup de crayons. Donc il fait des beaux dessins à la craie et il tend la main. Et dans une lettre manuscrite de la même époque, 1976, il va écrire ceci à des amis. « J'ai eu froid à en mourir. J'ai pendant 2 mois couché tout habillé dans une cabane où le vent rentrait si bien que mes feuilles posées sur la table s'en allaient volant dans la pièce. » Donc les courants d'air, on imagine le tirage. « J'ai taillé les vignes, j'ai fait le peintre en bâtiment, j'ai fait des portraits pour gagner un peu d'argent, j'ai des matinées entières fait la queue avec les Nord-Africains et les Portugais à l'agence de l'emploi. » Oui. Pensez-vous que ce soit là les symptômes ordinaires du désespoir ou de la dépression? Est-ce à dire que j'abandonne et que je renie ce que j'ai fait et enseigné ma vie durant? Je cherche à susciter seulement un organisme complémentaire. Il parle donc de quelque chose qui va créer, mais qui n'aura plus d'incidence. Non pas un organisme de remplacement. Cela dit, je fais cela par devoir, par fidélité. En fait, je suis désespéré. C'est-à-dire que je crains intensément que malgré tous mes efforts, la médiocrité des troupes ne permette pas la victoire. C'est tout. C'est un désespoir très serein, très tonique. Le désespoir des chasseurs à Sidim Brahim, on en reparlera. Quant à la mort, elle sera la très bienvenue. Tant j'ai la nausée des affaires de cette terre, Dieu seul. Dieu seul, sans les curés d'aujourd'hui. Donc, gagne. Et on est en 72, hein.
Mais c'était un ballon à la tête.
Ça vous séduit pas? Dit-il à ses amis. Au fond, et ça, écoutez, c'est très juste. Et on est concerné par cette dernière paragraphe. Au fond, je rigole. Quand je vois tant de chrétiens qui citent saint Paul avec tant de complaisance, mais qui, au lieu d'être d'ici comme n'en étant pas, c'est saint Paul qui dit ça, eh bien se cramponnent à tout pour y prolonger leur séjour. Et c'est vrai, il y a un manque, il y a une tiédeur, on n'est pas des héros, on n'est pas des saints, et donc la médiocrité des troupes, ou des chefs, il n'y a pas que vous, hein. Donc on voit dans cette lettre un grand désir de sainteté, c'est évident. Un certain héroïsme, parce que faire ce qu'il a quand même fait, il n'y a pas que le désespoir, il y a un certain héroïsme, un grand détachement, une grande générosité. Mais aussi on sent de l'amertume, de la tristesse devant la masse des chrétiens qui sont tièdes. Mais aussi, et nous y reviendrons, il y a un fond d'erreur, il y a un fond d'illusion qui sont bien fréquents. Et c'est ceci. Et ça c'est une leçon. Ce n'est pas parce que nous menons le bon combat qu'il sera nécessairement victorieux ici-bas. Ce n'est pas parce que nous menons le bon combat qu'il sera nécessairement victorieux ici-bas. Et l'Apocalypse nous dit même qu'à la fin, notre sort sera une défaite. L'Apocalypse nous a prévenus. La défaite temporelle. Si nous menons le bon combat de la foi, eh bien nous ressemblerons au Christ. Et nous souffrirons et nous mourrons crucifiés par un monde antichrist. La seule victoire qui nous a été promise, c'est la victoire de la vie éternelle. Jamais il nous a été promis de victoire temporelle. Et souvenez-vous de ce que la Vierge disait à Bernadette, Sainte Bernadette à Lourdes. « Je ne te promets pas de te rendre heureuse ici-bas, hein. Le contrat est clair. Hein. » Je te promets pas de te rendre. Et en effet, elle n'a pas du tout été heureuse ici-bas. Par contre, je t'annonce que tu seras sauvé. Donc la chrétienté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de victoire, hein, qu'il n'y a pas de consolation, mais la chrétienté a été une vraie victoire temporelle. Relative, mais une vraie victoire temporelle, mais une victoire temporaire. Et aujourd'hui, la chrétienté a disparu. Elle a été une parenthèse miraculeuse dans l'histoire des hommes, qui est une histoire qui doit se finir par le règne dans l'Antéchrist et qui sera à son tour lui-même anéanti par le Christ venant juger les hommes, et par lui seul la victoire finale n'est que c'est que le Christ qui la donnera. Saint Jean parle du bien, pourtant, d'une victoire. Saint Jean parle en effet d'une victoire du mal ici-bas. Puis ensuite seulement d'une victoire définitive et personnelle du Christ. Attention que ces choses-là soient bien claires. Au sujet du combat entre le grand dragon, je cite l'Apocalypse, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable, à Satan, le séducteur de toute la terre, et entre les hommes, eh bien Saint Jean nous dit « Il lui fut donné, au diable, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, sous-entendu temporellement. » C'est clair, Saint Jean le dit. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc ceux qui ne sont pas élus, ceux qui ne vont pas être sauvés. Et c'est ce que nous avons commencé à vivre, hein. Ce pouvoir antéchrist sur toutes les tribus, sur toutes les nations, c'est ce qu'on vit. Mais comme Dieu reste évidemment plus fort que le démon, qui est une créature, qui ne fait que ce que Dieu lui permet, eh bien Saint Jean dit, à 2-3 chapitres plus loin, au sujet de ces puissances maléfiques, ils feront, c'est toujours le diable, Satan et les antéchrists, là, les suppôts de Satan, ils feront la guerre à l'agneau ce coup-ci. C'est plus au saint, aux chrétiens, c'est à l'agneau, là, ils s'attaquent à l'agneau. Mais l'agneau les vaincra. Voilà. La victoire, c'est l'agneau. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et ceux qui l'accompagnent sont appelés les élus et les fidèles. Et donc, c'est, que ceci soit clair. Et Jean Housset a cru longtemps que la victoire serait infaillible sous prétexte de travailler généreusement et de prêcher fidèlement ou de se sacrifier héroïquement pour le Christ-Roi. Eh bien, c'est une erreur que l'on retrouve fréquemment dans nos milieux catholiques, fidèles au Christ-Roi. On nous dit, faites des sacrifices, on nous a dit, faites des sacrifices, prêchez le Christ-Roi, et comme nous combattons pour Dieu, la victoire est pour demain. Et ça fait plus de 2 siècles que demain est une défaite toujours plus accablante. Non, il fallait dire, et il faut dire, faites des sacrifices, prêchez le Christ-Roi au monde apostat, et comme nous combattons pour Dieu, alors que règne l'Antéchrist sur terre, eh bien après notre défaite sur terre, après avoir été attachés à la croix, nous ressusciterons glorieux pour une victoire éternelle. Ça c'est vrai. Il est de plus parfaitement vain d'attendre une victoire dans la cité quand l'ennemi pontifie à Rome, même en souillant le trône de Pierre. C'est en effet, c'est un fait que, c'est des choses qui m'ont moi toujours un peu étonné, hein. C'est un fait que malgré de très grands saints à l'époque moderne, on a quand même des géants, Saint Pédis, le curé d'Ars, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, Saint Antoine Marie Claré, et puis d'autres encore. Enfin, il y a quand même des saints qui ont une grandeur particulière. La masse des chrétiens, et c'est l'époque moderne, donc on pourrait croire que ces saints auraient pu inverser cette tendance de l'époque moderne, non? La masse des chrétiens et du clergé a suivi le monde et a arrêté de suivre le Sauveur. Le nombre des chrétiens qui combattent la Révolution n'a cessé que de diminuer. Et ils ont été de défaite en défaite sur terre. Mais c'est ce combat crucifié qui leur a permis de sauver leur âme. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est parce qu'ils ont été contre-révolutionnaires, ils ont peut-être échoué temporellement, mais ce combat contre-révolutionnaire, c'est ça qui les a sanctifiés. C'est ça, c'est ce combat qui les a sanctifiés. Et donc leur défaite temporelle n'a pas été vaine pour eux. Elle a été même occasion de victoire éternelle. Bref, le chrétien, à la fin des temps, ne combattra pas en raison d'un illusoire espoir de victoire, mais en raison d'une espérance certaine en vue de mériter la victoire éternelle. C'est peut-être ce que Jean Housset, eh bien, a fini par comprendre, ce qu'il pouvait comprendre lorsqu'il disait, il appelait son espoir un désespoir très tonique. Il disait, c'est le désespoir des chasseurs de Sidi Brahim. Alors, pour bien comprendre la nature de ce désespoir, il faut comprendre cette allusion aux militaires, aux chasseurs, c'était un corps d'armée, donc ces chasseurs de Sidi Brahim. Nous sommes en septembre 1845. un régiment de chasseurs, va engager un combat qui va être mal préparé et surtout mal mené par ses chefs. Ça aussi, c'est intéressant à savoir. Donc, mal mené par ses chefs contre l'armée d'Abdelkader. Et les pertes vont être énormes et très rapides. En une journée, sur les 450 chasseurs qui ont engagé le combat, eh bien, il n'y en a plus que 82 qui sont vivants. Et ils sont encerclés par 10 000 Arabes. Au bout de 3 jours, plus de vivres, plus d'eau et plus de munitions. Et cerise sur le gâteau, ils ont vu leur capitaine se faire décapiter devant leurs yeux parce qu'il avait refusé de leur donner l'ordre de se rendre. Voilà la situation des chasseurs de Sidi Ibrahim. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont tenter. Eh bien, le reste de la troupe va tenter une charge désespérée à la baïonnette, pour, eh bien, percer les lignes. Voilà le désespoir des chasseurs de Sidi Ibrahim. Et il y a 11 soldats qui vont en échapper. 13 arriveront à bon port, mais 2 vont mourir de leurs blessures. Sur les 82, sur les 450. Et je crois que l'avenir, c'est plutôt ça. C'est à la baïonnette contre 10 000. Arabes ou autres, hein, c'est pas le problème ça. On va être dans cet ordre de proportion-là. La contre-révolution comptait des millions de Français au XIXe siècle. Aujourd'hui, ce n'est qu'un petit troupeau qui ne cesse de s'amenuiser au fil des ralliements qui se succèdent. Remarquons encore que, tout comme Jean Housset en 1969, Madiran en 88, le monastère de etc., en 78, Gérard, je l'ai dit, hein, Campos, l'IBP en 2006, eh bien, tout comme ces mouvements-là, l'œuvre de Mgr Lefebvre en 2012, eh bien, tous les uns après les autres ont été bloqués, ont chuté, en partie sur la même difficulté qui avait accablé ce catholique hors norme qu'était Jean Housset. C'est le mystère d'iniquité. Alors je ne jette la pierre à personne, je constate et je tremble pour moi-même. Jean Housset, lui, ce qu'il a neutralisé, c'est Rome qui donne la messe Paul VI, messe bâtarde. Ça, bon, bloqué. Et là, c'est fini. Madiran, lui, c'est en 81 qu'il va commencer à se bloquer. Il va condamner le sacre de Mgr Gérard des Lauriers, donc ce dominicain avec qui il collaborait au tout début. Puis de nouveau, Madiran, en 88, bloque définitivement avec le sacre de Mgr Lefebvre. Enfin, les sacres faits par Mgr Lefebvre. Il ne comprend pas l'opération survie. Et puis, quelques années plus tard, eh bien, après ses sacres et sa mort, eh bien, c'est l'œuvre même de Mgr Lefebvre qui va chercher à se rallier, à pactiser avec les autres. Comme le père Augustin, comme Don Gérard, comme Mgr Ifan, comme l'abbé Laguérie. Toujours parce qu'ils ont un problème sur ce mystère d'iniquité, avec la Rome qu'ils combattent, et ou qui combattent plus justement. Donc avec cette Rome qui, elle, combat le Christ roi, pour au final se faire complice de l'imposture et de la révolution. Alors c'est là qu'il faut maintenant se poser la question, mais pourquoi ces ralliements si fréquents ? Eh bien, je pense pour 3 raisons principales. D'abord, c'est la difficulté propre au temps des temps de persécution. Souvenez-vous qu'en nos temps où règne la révolution, il est de plus en plus difficile aux catholiques d'être et de rester pleinement, socialement et structurellement catholiques. c'est pas facile. Car il ne suffit pas, je vous l'avais dit, d'avoir un discours non libéral. Il faut encore avoir un agir anti-libéral. Donc à contre-courant et combatif. Et ça sur tous les sujets. Bah, sur la télévision, sur les jeux, sur le divertissement, les vacances. Bah, tout ça, c'est ça, l'anti-libéralisme. Ça a des conséquences pratiques sur toutes ces choses-là. La tête couverte pour les dames, pour les offices religieux. J'en profite. Je rappelle. Il ne suffit pas d'affirmer des vérités. Il faut encore ne contredire les erreurs. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui est pénible. Il ne suffit pas de dire le vrai. Il faut encore contredire l'erreur lorsqu'elle est là, à notre porte. Qui s'oppose, soit de front, soit de manière insidieuse et sournoise, à la vérité. Il ne suffit pas de préconiser une recette qui peut être délicieuse en cuisine. Il faut encore condamner et combattre ceux qui veulent y mettre du poison. Sinon, ça, c'est la bonne recette, va être gaspillée. Donc être contre-révolutionnaire, c'est un devoir catholique qui est de plus en plus délicat et difficile. Ça, c'est vrai. Et donc, un catholique isolé peut le faire plus ou moins assez librement. Mais une structure, ça devient quasiment impossible. Parce qu'une structure est dépendante de la structure, donc du système, qui est, lui, est révolutionnaire et établi. Et donc, une structure ne peut pas, publiquement, ou alors que très difficilement, ou parce qu'elle est insignifiante, eh bien, avoir un agir contre-révolutionnaire. L'individu, le catholique, personne, oui, la structure, non. Or, ce sont les structures qui flanchent. Parce que justement, la structure est soumise à des pressions que l'individu n'a pas encore. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est l'erreur que je vous ai décrite chez Jean Housset. Hein. J'ai exposé celle de vouloir à tout prix une victoire. Qui ne venant pas, eh bien, finit par nous pousser au compromis. Parce qu'on ne veut pas être définitivement des perdants. Donc il faut bien que ça cesse. On veut, c'est pour ça qu'on veut une reconnaissance officielle, pour faire plus de bien, bien sûr, plus de bien. Or, le chrétien ne combat pas en raison d'un espoir de victoire, je vous l'ai dit, mais plutôt et uniquement par amour de Dieu et par espérance en vue de mériter la victoire éternelle. Donc ça, c'est, on l'a développé, j'insiste pas. J'insiste sur le troisième point, qui pour moi est une des causes de ces ralliements, c'est le manque de réalisme et peut-être même de sainteté, parce que la sainteté, en fait, c'est la soumission à la réalité. C'est ça l'humilité. C'est donc ce refus de... Mais vous savez, je reviens sur ce deuxième point-là, vouloir une victoire à tout prix. Je me souviens de l'abbé de Cacré, supérieur de district, qui me disait « Il ne faut pas prêcher l'Apocalypse, ça décourage les fidèles. » Ou l'abbé de Pflüger qui dit que « Non, l'Apocalypse, il ne faut pas prêcher ça, c'est ça. La victoire. » Alors, de Cacré, c'est pas rallié. Pflüger est un rallié, oui. Pas de Cacré, c'est vrai. Mais cet état d'esprit favorisera le ralliement. À contre-cœur, hein. Même si lui-même se rallie jamais. Le troisième point, je pense que c'est un manque de réalisme. Le refus de considérer notre époque pour ce qu'elle est. L'apostasie annoncée par les Écritures, par la parole de Dieu, qu'il a pris le temps de nous le révéler, avec à Rome quelqu'un, je cite l'Apocalypse, citation, quelqu'un qui a les deux cornes semblables à celles de l'agneau, mais qui parle comme le dragon. J'aime bien cette périphrase parce que elle est révélée par Dieu. Un jour, nous dit Saint Jean, il y aura quelqu'un qui aura les deux cornes semblables à celles de l'agneau. Mais en réalité, il parle comme un dragon, comme le démon. Qui, aux yeux du monde, ressemble le plus au Christ et qui, aux yeux du monde, est revêtu le plus du pouvoir du Christ. Car les cornes de l'agneau, les cornes, c'est la puissance d'une bête, donc c'est une image bien sûr symbolique, les cornes de l'agneau, c'est la puissance de l'agneau, l'agneau c'est Christ, qui sur terre est revêtu le plus de la puissance de l'agneau. Eh bien, qui plus que le Christ, si ce n'est, enfin, qui est le plus uni au Christ, si ce n'est que le vicaire du Christ. Donc, je pense que cette phrase de Saint Jean concerne le vicaire du Christ. Celui qui a les deux cornes semblables de l'agneau. Mais Saint Jean dit attention, écoutez bien, il parle comme le dragon. Et depuis Vatican II, ces prétendus vicaires n'ont qu'une ressemblance extérieure. La réalité intérieure, réelle, c'est qu'ils parlent comme le dragon, c'est-à-dire comme le diable. Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, François ont tous parlé comme le diable. Si vous n'êtes pas convaincu, voilà, il y a plusieurs livres à votre disposition. Je suppose que vous en êtes convaincu. Monseigneur Lefebvre a plusieurs fois évoqué cette réalité. Il disait, par exemple, « Nous vivons, là, dans l'Église, des heures excessivement importantes qui préparent, si elles continuent, la venue de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist ne trouvera plus d'objection devant lui. Il n'y aura plus rien qui l'empêchera d'être le roi du monde. » Oui. Si le vicaire du Christ ne fait plus son boulot, qu'est-ce qui va empêcher l'Antéchrist de régner? Mais, Mgr Lefebvre, comme Jean Housset, même si ce fut dans une moindre mesure, il a tenté d'abord d'interpréter le concile à la lumière de la tradition, et puis il s'est efforcé de sauver l'autorité d'une hiérarchie qui n'était plus catholique. Et là, il y a confusion, il y a embrouillamini. Bref, ces ambiguïtés ont fini par embrouiller la compréhension du mystère d'iniquité, et elles sont encore défendantes, hein, je ne dis pas que c'était volontaire, évidemment. Elles ont en tout cas facilité le gauchissement des esprits. Puis, on l'a vu, la chute de ses successeurs dans son œuvre. Quelquefois, il posera des jalons, mais pour les retirer presque aussitôt. Il dira, par exemple, à propos de l'opinion cédévacantiste, il disait très clairement, un jour peut-être que l'Église donnera raison à cette thèse. Malheureusement, deux ans après avoir dit cela, il fera le ménage dans sa fraternité et va interdire une thèse dans sa fraternité qui peut-être, au dire même de Mgr Lefebvre, sera reconnue par l'Église. Il disait aussi ceci, et on va retrouver encore le mot excessivement, ça montre comme que Jean Housset, ces hommes-là, souffraient d'une manière éminente de la situation, c'est évident. Nous nous trouvons, disait Mgr Lefebvre, devant un dilemme grave, excessivement grave. Ça veut dire que c'est mystère d'iniquité. C'est-à-dire que là, il ne voit plus. Qui, je crois, n'a jamais existé dans l'Église que celui qui est assis sur le siège de pierre participe à des cultes de faux dieux. Je ne pense pas que cela ne soit jamais arrivé dans l'histoire de l'Église. Non, en effet, jamais. Mais ce fut... Il posait ses jalons pour les enlever ou les contredire dans la pratique. Pour les enlever presque aussitôt, laissant place à une ambiguïté, puisque d'un côté, il dit qu'à Rome, ils ne sont plus catholiques. Il y a plus un discours où Monseigneur dit ça, hein, c'est des antichrists, ils ne sont pas catholiques. Mais de l'autre côté, il oblige ses membres de les reconnaître comme l'autorité catholique. Cette contradiction, en tout cas cette difficulté, ne pouvait que faciliter la déchéance de la fraternité Saint-Pédis. Que nous avons connu depuis l'an 2000 et qui était visible, enfin qui était officiel depuis 2012. Là encore, je constate, je tremble pour moi-même. Nous sommes face tous à un même mystère qui nous fait souffrir, mystère d'iniquité. Mais pour mieux me faire comprendre et pour faire court, je voudrais vous rappeler ce jugement du père Stransky. C'est un religieux donc pauliste qui était le membre de l'équipe du cardinal Béa qui va imposer au concile cette déclaration sur les religions non chrétiennes qui va devenir Nostra Aetate et sur d'autres textes sur la liberté religieuse et l'œcuménisme. Voici ce que ce père Stransky va dire en 1985 donc pour fêter les 20 ans de Vatican II et de Nostra Aetate. Ce texte Nostra Aetate a commencé à modifier, il y a 20 ans, à modifier intégralement 1900 ans de relations entre catholiques et juifs. Bon ben, ça s'appelle comment changer intégralement 1900 ans de catholicisme? C'est une apostasie. Elle est officielle et elle est pratiquée. Et donc, elle serait donc pratiquée par l'autorité catholique. À qui un catholique de soumission. Vous comprenez bien qu'il y a un problème quelque part dans le raisonnement. Et c'est pourquoi j'ai commencé mon livre sur l'Église et l'apostasie, eh bien, par trois citations qui sont de Saint Matthieu, de Saint Pierre et de Saint Jean, qui tous les trois parlent d'un soleil noir à la fin des temps. Et que peut bien signifier cette éclipse solaire? Un soleil noir, c'est un soleil qui disparaît. Si ce n'est la quasi-invisibilité de l'Église en raison de l'apostasie de ses membres. Saint Jean dit « Le soleil devint noir et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, vers la terre. » Les étoiles, c'est les évêques, ceux qui doivent briller à côté du soleil pour nous guider. « Il y aura, dit Saint Matthieu, donc notre Seigneur, il y aura une grande tribulation, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Après la tribulation de ces jours, le soleil s'obscurcira et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors, à la fin, apparaîtra le signe du Fils de l'homme. » Et Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, dit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bref. Donc ça désigne évidemment l'apostasie l'apostasie qui fait que la visibilité de l'Église va être cachée parce que l'apostasie de ses chefs. Et donc, ce qui a bloqué un Jean Housset, un Madiran, un Monseigneur Lefebvre, dans une moindre mesure, eh bien, c'était le principe catholique, qui est connu, que le premier grand principe sur par rapport à l'autorité catholique, c'est le prima sedes animine judicetur, le siège premier, donc le Saint-Siège, n'est jugé par personne. L'autorité catholique n'est pas contestable. Elle est ultimement et parfaitement dans la tête, le vicaire du Christ. Et donc, cette apostasie sous soleil noir et ces principes catholiques de 2000 ans faisaient que, non, ça posait un problème. Or, parmi de nombreuses citations qui sont possibles, je voudrais aujourd'hui n'en faire qu'une seule. Pour, non pas régler le problème de misaniquité, mais pour éviter cette erreur de manque de réalisme. Donc, DTC, Dictionnaire de théologie catholique. Donc, ce sont des centaines d'articles, qui ne sont pas tous de même qualité, hein, mais globalement, certains d'ailleurs des articles ont pu être recorrigés parce que l'archéologie a fait des progrès, ou parce que l'auteur n'était pas parfait sur ce sujet-là, ou partial sur ce sujet, donc voilà, donc, c'est vrai, bien sûr. Je ne dis pas que tout est... c'est pas parole d'évangile. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous pouvez lire le DTC sans pécher contre la foi, et adhérer à certains articles du DTC, voilà. Donc je vous lis maintenant la fin des colonnes d'un article. Donc c'est le quatrième volume, c'est le premier du quatrième volume, c'est les colonnes 516-520, c'est la dernière, et l'article avait comme sujet la déposition des clercs, donc la perte d'autorité chez les clercs. Et le dernier paragraphe, c'était la déposition des papes, donc la perte d'autorité chez les papes. Cet article date de 1910. Maintenant, je vous lis quelques phrases, parce qu'il ferait 4 pages, enfin il ferait 2 pages, donc là je vous donne les conclusions. Je cite l'article. « Si un pape commet un abus de pouvoir qui, pour un simple évêque, entraînerait la déposition, tout au plus, peut-on lui résister en face ?» Hein, le pape qui vous vole dans la poche, ou qu'est-ce qu'il fait ? Ben, vous résistez, c'est pas parce que c'est le pape qui vous laisse faire vos poches et votre portefeuille. Ouais, c'est... Donc il y a certaines fautes qui sont évidemment des dépositions pour l'évêque, mais pour le pape, comme le Saint-Siège n'est pas jugé par personne, on peut pas. Donc il faut simplement lui résister, pas plus. Comme fit Saint-Paul vis-à-vis de Saint-Pierre. Bon, c'est un cas, je passe. Le souverain pontife est donc au-dessus de toute juridiction terrestre. Donc, il va le prouver, hein, ni empereur, ni roi, ni concile, rien n'est au-dessus du pape. Ça c'est clair, c'est catholique, c'est de foi. Toutefois, à cette règle, on admet communément deux exceptions. Donc c'est commun d'après ce prêtre. Et c'est vrai, alors il y a des disputes, on en reparlera, mais on donne communément deux exceptions. L'hérésie constitue donc une faute pour laquelle un pape peut être déposé par le concile général. Cette doctrine fut reçue et confirmée par tout le Moyen-Âge. Innocent III reconnaît solennellement que si pour ses autres péchés, il a Dieu seul pour juge, en matière d'hérésie, il peut être jugé par l'Église. Plus loin, la règle qui s'applique au pape hérétique s'applique également aux schismatiques. Et c'est là la seconde exception que nous voulons signaler. Le concile procéda, il donne un exemple historique, où un concile va dégager un pape, le concile procéda en vertu de son autorité, parce qu'il s'agissait de pape schismatique. Pas n'était besoin de justifier sa conduite en invoquant une prétendue supériorité du concile sur le souverain pontife. Mais à proprement parler, ni dans l'un ni dans l'autre cas, le pape n'est déposé par le concile. Un pape qui tomberait dans l'hérésie et qui s'y obstinerait, ce serait du même coup d'être membre de l'Église et par conséquent d'être pape. Il se déposerait lui-même. En fait, les papes schismatiques ont été simplement traités comme usurpateurs et dépossédés d'un siège qu'ils ne possédaient pas légitimement. En réalité, personne ne serait déposé un pape hérétique ou schismatique puisque le premier a cessé d'être pape et que le second ne l'a jamais été. Fin de citation. Alors, je sais que certains théologiens ont estimé et reconnu dans l'Église, ont contredit ces affirmations, ont donné d'autres opinions, d'autres explications. Mais ce que je viens de lire, je ne prétends pas l'imposer comme un dogme de foi, comme une certitude évangélique, même si j'y adhère. Mais j'affirme Et c'est ça qui est important. Et retenez-le, même si vous n'adhérez pas à cela. J'affirme qu'on peut les tenir sans pécher contre la foi. Et c'est ça qui est important. J'affirme qu'on peut tenir ce que je viens de vous lire sans faire aucun péché contre la foi. Donc de manière tout à fait légitime et respectable. Et j'estime surtout que ces enseignements, eh bien, ce sont ces enseignements-là, ceux que je viens de vous lire, qui vont nous permettre le mieux, parce que ça ne va pas être parfait, hein, le mieux de traverser ce mystère d'iniquité en restant fidèlement au service du Christ roi, sans désespérer et sans se compromettre avec l'erreur. Je pense que c'est cette vérité un peu oubliée, ou en tout cas diabolisée, qui est la meilleure. C'est mon opinion. Et vous n'êtes pas obligé de la partager, puisque je vous dis que je ne vous l'impose pas. Je ne peux pas vous dire que je parle... voilà. Mais je vous fais remarquer que ils ne se rendent pas compte, mais ceux qui disent que ceux pour qui, pour faire simple, c'est le mot qui est habituellement utilisé, ceux qui disent que les sévacantistes ne sont pas catholiques, ben c'est ceux qui disent ça qui ne se rendent pas compte, mais c'est du sectarisme qui n'est pas catholique. Comment on peut dire à quelqu'un qui adhère à un article du DTC qu'il n'est pas catholique? Puisqu'il y a une dispute, il y a des opinions, dans le DTC il s'est exposé, et en plus c'est exposé comme étant les communiments. Non, ça va, c'est ce raisonnement-là qui ne va pas. Mais ma citation du TTC pose pour notre problème particulier tout de suite une autre question. Pourquoi aucun concile ni aucun groupe de cardinaux n'ont-ils déposé Jean-Paul II ou François? J'en ai fait un article pour montrer que François et Jean-Paul II sont clairement hérétiques. Ils ont nié directement un anathème du concile de Trente. Bon, c'est pas difficile là. Et en plus, l'un a béatifié l'hérétique. Donc il y a un... Ça fait lourd. Alors, pourquoi? Mais parce que justement, ces évêques sont eux-mêmes défaillants dans la foi. Je vous rappelle qu'à la fin des temps, je cite, il est dit que le soleil s'obscurcira. Mais il n'y a pas que le soleil. Les puissances des cieux, les étoiles tomberont vers la terre. C'est les évêques. Eux-mêmes sont défaillants. Donc il n'y a plus personne pour dire aux grands défaillants qui parlent comme le dragon, dégage. C'est notre situation. Alors concluons. Avec ou sans pape, le Christ, lui en tout cas, restera notre tête, la tête du corps de l'Église, qui est le principe, le premier-né, dit l'Écriture. Dieu a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux. Comment il veut réconcilier? En faisant la paix par le sang de sa croix, par la croix. Or, le monde veut la guerre avec Dieu. L'apostasie fait ses ravages dans l'Église. La maçonnerie internationale fait ses ravages dans la cité, dans le monde. Ça, c'est notre époque, l'époque antéchrist. Et nous devons bien porter notre croix qui va nous permettre de nous réconcilier avec Dieu. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que ce soit le chaos ou pas dehors, ça ne change rien concrètement pour nous. On porte sa croix et on se réconcilie avec le Christ. Qu'on soit au XIIIe siècle ou au XXe siècle, c'est le même devoir. Donc en servant fidèlement le Christ roi, vous savez, porter sa croix quand vous êtes Sainte Lidvine au XIIIe siècle, vous êtes en pleine chrétienté, mais c'est pas facile. 50 maladies, 45 ans dans le lit, le mystère d'iniquité, on a beau être en chrétienté, il n'est pas facile à porter quand vous appelez Lidvine. Donc c'est ça. C'est pas plus compliqué d'une certaine manière. Donc en servant fidèlement le Christ roi, rejeté par les autres, eh bien nous aurons certes bien des tribulations ici-bas, parce que pour vivre selon les commandements de Dieu, pour aimer la vérité, pour ne pas être complice des mensonges, c'est source de souffrance. Mais cela sera aussi source de gloire, et ce sera selon notre fidélité sainteté. Source de gloire. Et nous serons plus ou moins à ce moment-là proche de l'autel, proche de l'agneau, comme dans l'Apocalypse, qui dit, c'est la fête de tous les saints, hein, « Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, debout, devant le trône, devant l'agneau, vêtue de robes blanches et tenant des palmes à la main. Et elle crie d'une voix forte, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et une voix autour du trône va expliquer à saint Jean, « Ceux que tu vois revêtus de ces robes blanches sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » C'est notre vie. C'est vivre, porter notre croix, et surtout porter la croix à l'époque du mystère d'iniquité. Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes avec, ils les ont blanchis avec le sang de l'agneau. C'est réconciliation. Et c'est pour cela qu'ils sont là devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. L'agneau qui est au milieu du trône sera le pasteur et les conduira aux sources des eaux vives. Et Dieu essuiera alors toutes leurs larmes. Mais c'est seulement à ce moment-là que nos larmes vont cesser, que nos inquiétudes, que notre angoisse, que nos souffrances cesseront, pas avant. Voilà. Voilà, je pense qu'il est éclairant, donc, pour en finir avec une certaine manière de prêcher le Christ roi, et pour comprendre la logique psychologique qui favorise ces ralliements qui sont une compromission contraire au Saint-Évangile. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à une prochaine fois. Merci. Merci.